Vous écoutez RFI, la radio du monde. Bienvenue, il est 1h à Paris, minuit en temps universel.
Antoine Gallen.
À la une de l'actualité, Mayotte, il ne reste plus rien des bidonvilles après le passage du cyclone Chido. Emmanuel Macron sera sur place dans les prochains jours. L'île est totalement dévastée, ce sont les mots de Bruno Retailleau, vous l'entendrez. Bachar al-Assad sort du silence, l'ex-président syrien évacué en Russie qualifie les nouveaux dirigeants du pays de terroristes. Dans ce journal, Agnieszka Kumor vous explique comment l'ex-président syrien a versé 250 millions de dollars en espèces à la Russie pour payer le soutien militaire de Moscou. Et puis en fin de journal, les excuses de Dominique Pellicot, le principal accusé du procès des viols de Mazan, s'est exprimé une dernière fois devant la cour avant de connaître le verdict dans 3 jours.
RFI.
Mayotte dévastée après le cyclone Chido. 21 personnes décédées officiellement, mais les autorités redoutent plusieurs centaines de morts, peut-être des milliers. Ce lundi, 25 premiers patients ont été évacués vers La Réunion. Les images de l'archipel montrent des quartiers dévastés. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau était sur place. Écoutez.
Ne me demandez pas de bilan. Une mission a été ce soir d'ailleurs décidée en cellule interministérielle de crise pour que, notamment vis-à-vis des réseaux traditionnels, du CADI, etc., on puisse, au niveau aussi des autorités locales, commencer à faire un recensement dès lors que les routes auront été dégagées, qu'elles auront été ouvertes. Mais je serai bien incapable de me projeter pour vous donner de quelconque chiffre pour l'instant. En tout cas, il est clair que l'île est totalement dévastée.
Le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'il se rendra à Mayotte dans les prochains jours et qu'il y décrétera un deuil national. Exilé en Russie, Bachar al-Assad sort du silence. Dans un communiqué, il dément avoir abandonné le pays après la prise de Damas par une coalition rebelle. La Russie, un allié de poids de Bachar al-Assad. Car d'après des documents confidentiels auxquels le quotidien britannique Financial Times a eu accès, l'ex-président syrien a envoyé 250 millions de dollars en espèces à la Russie pour payer le soutien militaire de Moscou, mais aussi pour faire l'acquisition d'actifs russes. Agnieszka Kumor.
Ce sont au total 2 tonnes de billets de 100 dollars et de 500 euros qui ont été transférés par avion entre 2018 et 2019. Destination, les banques russes, payées pour avoir prêté main forte au régime syrien. Il s'agit ici d'une minutieuse organisation mise en place par l'autocrate, l'organisation ayant pour but de cacher les actifs syriens mis au ban du système financier international par les sanctions. Bachar al-Assad a été régulièrement accusé de spolier la Syrie de ses richesses. En parallèle, le trafic de captagon, une drogue de synthèse, apportait des milliards de dollars. Cet argent avait permis au chef déchu de financer la guerre et de s'enrichir personnellement. Un système dont a par ailleurs profité le clan Assad durant des décennies. Des biens immobiliers et des actifs ont ainsi été accumulés entre la Russie et les îles Caïmans, en passant par la Suisse, la France et Dubaï.
En Syrie, toujours, le chef du gouvernement de transition, Al-Joulani, dit vouloir un contrat entre l'État et les confessions pour garantir une justice sociale. Les contacts s'établissent peu à peu avec le gouvernement de transition. L'Union européenne a annoncé l'envoi d'un représentant. Une délégation française et anglaise est aussi attendue. Pendant ce temps, l'armée américaine a annoncé avoir tué ce lundi 12 membres du groupe État islamique lors de plusieurs frappes aériennes en Syrie qui ont visé, je cite, des dirigeants, des combattants et des camps du groupe djihadiste. En Géorgie, un sapin de Noël géant devant le Parlement, mais l'ambiance n'est pas à la fête. 19e jour de mobilisation pour les manifestantes pro-Europe qui dénoncent des élections législatives truquées. Le parti au pouvoir a nommé Mikhaïl Kvelachvili comme président, un ex-footballeur d'extrême droite. Les États-Unis très préoccupés par l'état de la démocratie géorgienne. Déclaration du porte-parole du département d'État, Matthew Miller. Il ajoute que les États-Unis se préparent à imposer de nouvelles sanctions contre la Géorgie après la décision de suspendre jusqu'en 2028 toute négociation d'adhésion à l'UE. L'Union européenne veut également prendre des sanctions contre les responsables géorgiens après la répression qui s'est abattue sur les manifestants pro-Europe. Elle envisage de suspendre les voyages sans visa pour les diplomates géorgiens. Écoutez la vice-présidente de la Commission européenne, Kaya Kallas.
Aujourd'hui, nous avons convenu de la nécessité de suspendre le régime d'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques. La Commission présentera une proposition dès cette année. Nous avons également discuté des sanctions contre les fonctionnaires géorgiens qui sont à l'origine des violences commises à l'encontre des manifestants pacifiques. À l'avenir, nous continuerons à soutenir le peuple géorgien, notamment en réorientant les financements des autorités vers la société civile et le peuple géorgien, les médias indépendants, car l'avenir de la Géorgie, comme c'est le cas en Syrie pour les Syriens, c'est au peuple géorgien de décider de ce que l'avenir peut être.
RFI, 4h05 à Bakou, 3 ans de prison pour un graffiti dans le métro de la capitale azerbaïdjanaise. La condamnation en appel du graffeur français Théo Clerc a été confirmée ce lundi par la justice azérie. Une décision injuste et disproportionnée selon son avocate française Margot Fontaine. Elle considère que Théo Clerc est un otage diplomatique, victime collatérale des mauvaises relations entre la France et l'Azerbaïdjan. C'est un événement rare dans l'histoire politique allemande. Olaf Scholz a perdu la confiance des députés après la rupture de sa coalition début novembre. Le chancelier Scholz ne dispose plus de majorité. Il a posé la question de confiance ce lundi au Parlement afin de la perdre. « Vous avez eu votre chance, vous ne l'avez pas saisie », a lancé Friedrich Merz, favori pour le remplacer à la tête du pays. Cela ouvre la voie à des élections en février. Pascal Thibault à Berlin.
Un sabotage de la part du Parti libéral, son président Christian Lindner, ministre des Finances, jusqu'à son limogeage par Olaf Scholz début novembre, et qui écoutait le discours du chancelier comme simple député, s'est vu reprocher de manquer de maturité morale. La campagne électorale est clairement ouverte. Olaf Scholz s'est d'ailleurs adressé depuis le Parlement directement aux électeurs.
Je sais que la confiance dans notre coalition a souffert ces dernières années. Les disputes nombreuses entre nous ont été contre-productives. Mais critiquer en permanence, se plaindre ou abandonner, ça n'a jamais amélioré les choses.
Le chancelier a plaidé pour les investissements, pour moderniser l'Allemagne et pour la défense des réformes sociales. Son challenger, le favori des sondages, le président du Parti chrétien-démocrate, Friedrich Merz, a dressé un bilan au vitriol de l'action d'Olaf Scholz et de son gouvernement.
Avec vous, ce pays est confronté à l'une des pires crises de l'après-guerre. Monsieur le chancelier, vous avez eu votre chance, vous ne l'avez pas saisie, vous ne méritez pas la confiance.
Olaf Scholz n'a obtenu que les voix du groupe parlementaire social-démocrate et a clairement, comme prévu, perdu la question de confiance. Il s'est rendu immédiatement à la présidence de la République. Le chef de l'État, Frank-Walter Steinmeier, doit prendre la décision de dissoudre le Bundestag. Des élections anticipées sont prévues le 23 février. Pascal Thibault, Berlin RFI.
En France, au procès Pellico à Avignon, la cour est partie délibérée après 4 mois de débat. Dominique Pellico est accusé d'avoir drogué sa femme pour la violer et la faire violer par des dizaines d'hommes. Ils sont 50 à comparaître à ses côtés. Aujourd'hui, ils ont pu s'exprimer une dernière fois à la barre. Dominique Pellico, le principal accusé, a pris la parole. Des déclarations attendues qui n'ont pas étonné son avocate, Maître Zavaro.
Il a tenu à présenter ses excuses à sa famille, principalement. Il a tenu à remercier la Cour pour les égards que la Cour a eus à son endroit, eu égard à ses problèmes médicaux. Il m'a remercié, effectivement. Et puis, voilà, il avait besoin d'exprimer son ressenti sur ce qu'il a vécu pendant 3 mois et demi. Personnellement, j'ai pas constaté d'évolution notable le concernant, en tout cas sur le plan de ce dossier et de la vérité. J'attends d'avoir été entendue et comprise. Voilà. J'espère, très sincèrement et très humblement, j'espère que la Cour va pouvoir s'éloigner quelque peu du maximum légal qui a été prononcé et revendiqué par l'accusation.
Et avant de terminer ce journal, quelques mots de football. Le nom du joueur africain de l'année est tombé. Ademola Lookman succède à son compatriote Victor Osimhen. Le titre était disputé entre Achraf Hakimi ou encore Serhou Guirassy. Mais il faut dire que l'attaquant de l'Atalanta Bergame en Italie a connu une année exceptionnelle. Une victoire en finale d'Europa League contre les Allemands du Bayer Leverkusen avec un triplé et une finale en Coupe d'Afrique des Nations face à la Côte d'Ivoire. Les éléphants remportent d'ailleurs le titre de meilleure équipe masculine et Mercé Faye a été sacré meilleur entraîneur africain. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.